Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Cube Radio. Voici la citation de Diane Ducray, une écrivaine française. L'homme idéal existe, il est québécois.
Vous écoutez le tout premier épisode d'À haute voix. Je suis Vincent Dessureau. Chaque semaine, je suis en compagnie de Denise Bombardier, qui remonte le fil de sa mémoire pour discuter des enjeux de la société québécoise contemporaine. Journaliste et écrivaine depuis plus de 30 ans, son franc-parler est aussi connu en France qu'au Québec. Vous écoutez une série balado qui dit à haute voix ce que Denise Bombardier pense haut et fort.
J'ai écrit dans La déroute des sexes un essai sur la situation de l'homme et de la femme. L'homme québécois fut d'abord soumis à sa mère, l'Église, puis à sa propre mère et enfin à sa femme. En un sens, aujourd'hui, l'homme québécois se sent orphelin.
Aujourd'hui, les hommes québécois. Bonjour Denise Bombardier.
Moi qui n'ai jamais le trac, c'est fou à dire. Et puis en plus, c'est quand même dans des conditions minimales puisque c'est le début d'une chaîne. J'ai presque le trac et je ne l'ai jamais.
On est en mode confidence un peu.
Oui.
Dans À haute voix, ce sera quoi ce podcast, cette balado-diffusion pour vous?
Ben, je pense que, écoutez, il faut qu'il y ait quelques avantages à vieillir. Donc, il faut que l'expérience puisse nous apporter quelques avantages et aussi, évidemment, la connaissance. Mon fonctionnement intellectuel, là, c'est que je suis très éclectique, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui m'intéressent dans la vie. J'ai une formation en sciences politiques, en sociologie, puis en même temps j'ai écrit des romans, donc je m'intéresse à tous les aspects de l'activité humaine, alors on va parler de beaucoup de choses.
On entre directement dans quelque chose qui a beaucoup de substance, les hommes au Québec.
Oui, parce que les hommes québécois sont particuliers si on les compare aux hommes d'ailleurs, si on les compare aux Américains par exemple, aux Canadiens, même aux Canadiens anglais.
Donc, aux Français que vous connaissez bien.
Aux Français, parce que c'est le pays que je connais le mieux avec le Québec, mais aussi les Italiens. Donc, il y a une spécificité. Hein? Si le Québec est une société distincte, il y a une spécificité québécoise, c'est le statut des hommes au Québec. Et pour bien comprendre le statut des hommes au Québec, pour bien comprendre l'évolution de la perception que l'on se fait des hommes, ben évidemment, il n'y a qu'une seule façon d'arriver à comprendre ce qui s'est passé, c'est de retourner justement dans le passé, c'est de retourner dans la mémoire et se retourner dans l'histoire.
On remonte jusqu'à quand, donc, pour voir ce début de virage?
Remontons jusqu'au moment où il y a des hommes qui ont mis le pied ici, c'est-à-dire on a eu des découvreurs, tu sais, je parle de Jacques Cartier, Samuel de Champlain, évidemment, c'était les Français, mais c'était des hommes qui prenaient des risques. C'était des hommes qui cherchaient à conquérir le monde et qui sont venus, au nom du roi de France, conquérir le Canada. Mais il y avait aussi, parmi ces hommes-là, le sieur de Maisonneuve, lui, il était venu pour convertir les gens parce que lui, c'était un catholique, donc c'était pour installer fortement la religion catholique en Nouvelle-France. Bon, alors il y a eu ces hommes-là et après il y a eu la conquête. Et quand la conquête arrive, c'est-à-dire en 1760, là, une partie des Français retourne en France. Et donc, les Canadiens naissent d'une certaine façon, on ne parlait pas encore du Canada, c'était la Nouvelle-France, mais l'homme né sur le territoire qui s'appelle aujourd'hui le Québec, qui était la Nouvelle-France, cet homme-là est coupé de la France et ce sont ce qu'on a appelé les habitants par la suite. Et ces Français-là, évidemment, ces hommes-là ont été des hommes qui ont développé le pays. Donc, essentiellement, c'était ils ont développé, ils ont défriché les terres. Puis et c'était des bûcherons parce qu'ils ont coupé les arbres parce qu'il fallait qu'ils construisent. Donc c'était des hommes qui travaillaient fort. C'est l'image de l'homme physiquement fort. D'ailleurs, dans cette partie de l'histoire, au 19e siècle, par exemple, il y a deux hommes qui vont devenir les héros au Québec. C'est d'abord Louis Cyr, qui est l'homme qui va devenir, je vous parlerai de Louis Cyr plus tard, qui va devenir l'homme le plus, on disait de lui qu'il était l'homme le plus fort de la Terre. Mm-hmm. Et il y a eu Joe Monferrand, qui était aussi...
Un colosse,
hein? Et lui aussi, évidemment, était un modèle pour les hommes. Ce qui arrive, c'est qu'on, les familles s'installent, les filles du roi arrivent, et l'homme est ce qu'on appelle le pater familias. C'est le père, c'est le pourvoyeur. Et c'est lui qui construit la maison, qui défriche, c'est lui qui permet à sa famille d'être nourrie, et la femme s'occupe des enfants. Il y a un phénomène intéressant au Québec qui explique des choses dans la complication des rapports des garçons à l'éducation. C'est que nous sommes probablement une des seules sociétés au monde où les femmes, à un moment donné, au début, les femmes ont été plus instruites que les hommes. Parce que les femmes, elles étaient les maîtresses d'école. Moi, par exemple, dans ma famille, ma mère a enseigné à son père à lire et à écrire. Parce que tout le monde était à peu près analphabète. Elle était la 11e de la famille. Et c'est elle qui a enseigné ça à son père. Ça, c'est une réalité que vous verrez rarement dans ce qu'on appelle les sociétés occidentales. Donc, les femmes étaient les maîtresses, et puis c'était les infirmières avant que les médecins, la médecine se développe et tout, qu'il y a des médecins et tout. Mais les femmes savaient les choses de l'esprit. Donc, il y a eu un partage des tâches. La femme élevait les enfants. Mais comme le père était absent, parce qu'une des grandes Un des grands thèmes, quand on parle de l'homme québécois, un des grands thèmes qui se retrouve dans toute la littérature québécoise d'avant 1970, disons 70, c'est l'absence de l'homme. Parce que l'homme, il est où? Il est sur la terre.
Il est parti bûcher.
Oui, 6 mois par année, il est parti bûcher. Et puis, évidemment, pour ceux qui pêchaient un peu, mais ça c'était moins important, il y avait les pêcheurs aussi.
Et on n'avait pas le choix, donc, d'avoir des mandats clairs à cette époque-là, parce que les filles du roi, on les envoyait pour peupler ces nouvelles terres. Donc, ça peut pas passer par l'homme. L'homme devait défricher, construire, il y a énormément de travail à faire. Donc, c'était pas des préjugés, c'était vraiment une nécessité.
Vous savez, quand on parle de l'homme québécois, c'est rare qu'on parle du courage des hommes, du fait qu'ils ont travaillé mais jusqu'au sang pour être capables d'abord de défricher cette immensité de territoire. Et ils le faisaient.
Loin de leur famille, dans des cabanes, souvent très loin.
Oui, et sur les terres, évidemment, de défricher, d'essayer de dépierrer ces terres, surtout par exemple dans la région en Haut-Saint-Jérôme, c'était pas des bonnes terres, c'était des terres de pierre, et ils défrichaient, puis ils arrachaient les pierres pour pouvoir faire pousser pour pouvoir se nourrir, quoi.
Mais j'ai une question pour vous. Cette dynamique homme-femme à l'époque, au niveau du couple, quand c'est l'homme et la femme se retrouvaient ensemble, est-ce qu'il y avait une notion de pouvoir, une hiérarchie ou un respect mutuel?
Il y avait une hiérarchie, bien sûr. C'est-à-dire que les rôles étaient parfaitement définis. La femme s'occupait des enfants, elle les élevait, elle s'assurait qu'ils apprennent à lire et à écrire. Et évidemment, elle contrôlait la maison quand le père n'était pas là. Ce qui explique en partie aussi que les femmes québécoises sont des maîtresses-femmes. Les femmes s'occupaient de ça. C'était dur, la vie était dure, et on oublie de dire que la vie était dure et que la vie n'était pas dure seulement pour les femmes, et que ce discours idéologique qui dit que les femmes étaient totalement écrasées et que les hommes avaient l'air d'être épanouis à travers ça, les hommes étaient des hommes travaillants. Évidemment, il y avait des excès. Évidemment, l'homme était, disons, socialement plus important que la femme. Mais à l'intérieur de son foyer, c'était la femme qui menait.
Mais y avait-il de la place pour de la tendresse, par exemple, dans le couple?
Mais écoutez,
ou c'était vraiment les tâches avant tout?
Mais écoutez-moi bien. J'ai déjà dit si on écoute les discours des femmes d'aujourd'hui, on a l'impression que les femmes ont connu l'orgasme après 1960. Faut pas, vous
c'est
savez,
pas vrai.
Il y a une chose, je crois, qui n'a pas changé. L'expression a changé, évidemment. La pudeur se définit différemment. Il y a toute la contrainte de l'Église catholique et du péché, hein, le péché, puis surtout le péché de la chair. Et le fait que les femmes ne pouvaient pas contrôler les naissances, ça c'est une véritable, c'était vraiment pour les femmes, c'était terrible. Hein? Elles se faisaient dire que tout ce qu'elles avaient à faire, c'était de faire des enfants. Bon, mais il est évident que les rapports amoureux, depuis le début des temps, il y a quelque chose qui n'a pas changé là-dedans. Et il y avait des couples, certainement des couples qui étaient des couples qui s'aimaient. Il y avait des hommes qui savaient faire l'amour. Il y avait des femmes qui aimaient faire l'amour. Mais dans le contexte, c'est facile. C'est parce qu'on voudrait que tout ait été terrible avant pour avoir l'air d'être si, maintenant, si libéré.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
J'en parle dans mes mémoires, j'en ai parlé dans une enfance à Loubinite. Et j'ai fait un livre, Edna, Irma et Gloria. Ces femmes-là, elles auraient 130 ans aujourd'hui, figurez-vous. Eh bien, ces femmes-là étaient des femmes enragées. Elles étaient presque analphabètes, mais elles lisaient le journal à haute voix parce qu'elles voulaient apprendre. Et elles étaient si fières que moi, je sache lire, je sache écrire, je sache parler, tout bon. Mais ces femmes-là, moi, mes tantes, contrairement à beaucoup de gens au Québec, moi, mais j'ai vu mes tantes aussi, qui, quand le mari disait des niaiseries, à schlac, ça parpait. Des claques, quoi. Moi, j'ai vu ça. Et elles buvaient énormément. C'était des femmes qui buvaient parce qu'elles sont... En fait, elles sont pas mortes libérées. Pas libérées au sens où les femmes sont libérées aujourd'hui, mais elles savaient qu'elles auraient pu être libérées. Mais elles étaient pas dans la bonne classe sociale. Et ces femmes-là étaient enragées de ne pas pouvoir s'affirmer. Alors, étaient-elles heureuses? Je ne crois pas. Mais c'était à cause de la situation générale qu'elle n'était pas. C'est à cause de la situation des femmes en général.
Vous avez glissé un mot sur les modèles, les grands modèles de masculinité de cette époque-là. Un certain Louis Cyr, un certain Joe Monferrand.
Oui, ça c'est quand même les hommes forts. Le Québec s'est entiché de deux personnages. Ben, il y en a eu un avant, hein, qui s'appelait Victor de la Mare. Là, on est au 18e siècle. Et il y a un historien qui s'appelle Delaroche qui a parlant de Victor de la Mare, qui était aussi un homme très fort, il a dit « Notre race », puis là, ça revient à ce que je vous ai dit, « Notre race canadienne-française, surtout dans nos campagnes, est demeurée une race robuste et forte parce qu'elle est une race jeune, frugale, profondément morale et chrétienne. » Autrement dit, c'était les muscles contre les messes, quoi. Et donc, Louis Cyr, il est né parce que c'est un personnage extraordinaire. C'est un fils de cultivateur et de bûcheron. Il est né en 1863 et il est devenu l'homme le plus fort au monde en 1889. Il a été désigné comme ça par le magazine américain The National Police Gazette.
Une première vedette québécoise?
Ça a été la très grande vedette. La Société Saint-Jean-Baptiste déjà existait à l'époque. Hein, c'était le temple du nationalisme canadien-français. L'a honoré en lui offrant la ceinture Fortissimo. D'ailleurs, si vous voyez des images, et même dans le film, vous voyez avec sa ceinture, là. Mm-hmm. Bon, ben alors, c'était là. C'était le nationaliste en chef, si on peut s'exprimer ainsi. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, vous savez que le film en 2013 a eu énormément de succès. C'est oui. Un des films qui a fait... Les gens étaient fascinés par l'histoire. Évidemment, il y avait le jeune acteur Antoine Bertrand, qui a été obligé, qui a pris plusieurs kilos supplémentaires pour être capable de jouer le rôle. Mais c'est pas seulement la qualité du film, je crois que ça a fasciné, parce que l'idée qu'il y ait eu des hommes forts et puissants dans un monde d'aujourd'hui où on ne parle plus des hommes comme étant forts, on parle comme s'ils étaient faibles et s'ils étaient lâches aussi. Il était partout, il a voyagé partout dans le monde. Il était, on l'a retiré de l'école à 12 ans, parce qu'il était déjà très fort. Donc, il faisait des tournées. Et c'est aux États-Unis qu'il a changé de prénom, parce qu'il s'appelait, son prénom, c'était Cyprien Noé. Aux États-Unis, ça se disait mal, alors c'est là qu'il est devenu Louis. Et sa carrière a débuté vraiment à 16 ans. À ce moment-là, il pèse 90 kilos. À 30 ans, il mesurait 1m78, ce qui n'était pas si grand, mais il était déjà à 136 kilos. Alors là, toute sa carrière, il parcourt les États-Unis et il va même aller en Europe. On le présente comme l'Hercule, hein, le dieu Hercule, l'Hercule canadien-français. Alors donc, il a multiplié ses prouesses même en Europe. Il a battu tous les records en Europe, en Angleterre en particulier. Et ceux qui ont osé l'affronter étaient pas nombreux, parce que il a vite compris que ceux qui étaient et les hommes forts en Europe, que c'était des fumistes en général qui avaient recours à des stratagèmes, alors que lui, évidemment, il a été dans les grands cirques, Ringling Brothers, il y a un film aussi, c'est les fameux cirques de l'époque, mais il a été horrifié. Vous savez que dans les cirques à l'époque, on montrait les handicapés et on en faisait des,
non, c'était même des tribus,
c'était des phénomènes indiens, c'est ça, hein. Il côtoyait des siamoises, et puis des hommes à trois jambes, et puis un asiatique de 2,50 m. Lui, ça l'a tellement choqué, parce qu'il était croyant, il était pieux, donc il était dans la tradition catholique, du Québec. Et c'était un mari fidèle. À 36 ans, cependant, il y a des maux de dos, des maux de... il peut plus marcher. Et finalement, il est mort jeune. Il est mort en 1912 parce qu'il avait une grave maladie rénale. Et on pense que cette maladie-là est conséquente à tous les efforts qu'il faisait. Parce que, je veux dire, il était capable de lever avec une plateforme. Il installait 24 hommes sur une plateforme, il se mettait ça sur les épaules. C'était fou. Bon. Le second, Joe Monferrand, lui, c'est un personnage. Joe Monferrand, lui, est né un peu plus tôt. Il est né plus tôt, en 1802, voyez, quand même, au début du 19e siècle. Et lui, il est excessivement coloré. Et c'est difficile de départager chez lui la réalité
de la fiction.
Des mythes. Oui, c'est un bûcheron, un draveur. Partout où il sévissait, je veux dire, il provoquait des batailles parce qu'il se battait.
Mais c'est une époque où ça se bagarrait beaucoup.
C'était incroyable. On disait, je veux dire, que c'était pas un. Il mesurait 2 mètres, je vous signale, parce qu'il faut pas oublier la chanson de Vigneault sur Montferrand. Hein? Le cul sur le bord du Cap Diamant, les pieds dans l'eau du Saint-Laurent. Calculez,
c'est
vous
haut.
Voyez l'image,
oui.
C'est haut.
Le cul sur le bord du Cap Diamant, les pieds dans l'eau du Saint-Laurent. J'ai jasé un petit bout de temps avec le grand Jean Monferrand. On a parlé du vin, de la pipi, du beau temps. Puis j'ai dit, Joe, dis-moi comment que t'es devenu un géant. Que t'es devenu un géant. Il dit, le cul sur le bord du Cap Diamant, les pieds dans l'eau du Saint-Laurent. J'ai jasé un petit bout de temps avec un autre fermement.
On disait que quand il frappait comme une ruade de cheval. Puis qui maniait la jambe avec un fouet. Alors, son exploit le plus invraisemblable. Mais on se dit que ça n'a pas tout à fait de sens.
On va se l'imaginer.
Bon, on savait qu'à l'époque, les Canadiens français se battaient, avaient des affrontements permanents avec les fiers à bras irlandais parce que les deux groupes étaient en compétition pour des emplois dans l'industrie forestière. Et un jour, dans la vallée de l'Outaouais, hein, dans le nord-ouest québécois, là. C'est l'historien Benjamin Sult, qui est un des grands historiens du passé, du Québec. Il a décrit le fait d'armes. Ça s'est passé sur le pont entre Hull et Bibetown. Donc, qui est l'Ontario, maintenant. Monferrand a fait quelques enjambées rapides, je le cite là. Pour se rapprocher de ses agresseurs, ils étaient 150. Lui, il est tout seul. L'un d'eux, plus exposé, un cave qui était laissé devant lui, s'en est emparé, il l'a saisi par les pieds et il a fait une massue avec laquelle il a couché par terre le premier rang des bagarreurs, des Irlandais. Puis, il les ramassait puis il les jetait dans les rivières. Voilà un des faits de Joe Monferrand.
Comme Astérix, là, donc, avec
ouais,
sa potion.
C'est ça.
Donc, peut-être, disons, ça a été romancé.
Ça a été romancé.
Ils étaient peut-être 15, ce qui serait quand même bon.
Oui, déjà 15. Mais vous voyez que c'était... Alors, qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui des hommes qui se battent? On les corrigerait beaucoup. C'est sûr.
On avance un peu dans le temps parce qu'on parlait de la Deuxième Guerre mondiale qui a fait évoluer beaucoup l'espace la place de la femme au Québec.
Parce que les femmes, il y a des femmes qui n'ont plus voulu retourner au travail.
Donc c'est ça, à partir de là.
À la maison.
Donc les hommes reviennent de la guerre.
Oui.
On arrive dans les années 50 et là, justement, le bouleversement commence.
C'est-à-dire qu'il y a déjà des femmes qui veulent, il y a plus de femmes qui veulent travailler. En plus, avec l'industrie. Donc, vous avez la création de la classe moyenne, là. Et on se rend bien compte que deux salaires, c'est mieux qu'un.
L'économie
en même temps,
va bien.
Après la guerre, oui. Mais, et ce qui se passe aussi, c'est que le taux de natalité, forcément. Vous savez, on a dit que c'est parce que Duplessis retenait, Duplessis, notre potentat local, notre dictateur local, qui a dirigé le Québec d'une main de fer. Et pas dans un gant de velours et qui se moquait de l'Église en même temps, qui disait que les curés venaient manger dans sa main, Duplessis. Donc, il faisait une alliance avec l'Église parce que l'Église était forte pour imposer davantage son pouvoir sur le Québec. Mais il n'aurait pas pu, au fond, freiner ça encore longtemps parce que l'industrialisation, c'est ça qui a fait tout éclater la société québécoise, et c'est ça, et comme toutes les sociétés occidentales, mais c'est ça aussi qui a transformé, et on le verra, parce que transformé de façon radicale, parce qu'on verra ce qui est arrivé à partir des années 60 dans les rapports hommes-femmes, mais qui a transformé la société québécoise. À partir du moment où les femmes ne font plus 12 enfants, hein, puis que le taux de natalité baisse, il est évident que la femme travaille aussi.
Parce que la tâche à la maison devient beaucoup moins grande avec 2-3 enfants,
voilà.
4-5 versus
c'est
14.
Sûr. Et en plus, c'est que quand la femme gagne de l'argent, elle a un comportement un peu différent. Et le père pourvoyeur, dans le passé, le père était le seul pourvoyeur. C'était grâce à lui qu'on avait l'argent. Et là, je vais vous raconter une histoire qui se passe avant les années 60 dans ma propre famille. Moi, mon père, il cachait l'argent. Mon père, il voulait pas donner d'argent. Enfin, quand on abordera mes mémoires, je vous raconterai en détail. Mais je vais vous donner juste un avant-goût. Ah, gratteux. Il était obsédé par l'argent. Et lui, il y avait des tringles. Vous savez, il y a des tringles dans les murs.
Oui.
Hein? Et il pliait les billets de banque, puis il cachait dans les tringles. Et ma mère, quand elle voulait le vendredi, il fallait faire la commande pour acheter. Nous, les enfants, moi, j'étais jeune, là, j'avais 5 ans, 6 ans. Et là, on prenait un couteau effilé, puis ma mère mettait la lame du couteau, puis on sortait des billets. C'était un moment de grâce, mais c'était quand, ça vous dit le pouvoir que des hommes, enfin dans le cas de mon père c'était excessif, disons que pas tous les hommes cachaient ça comme ça, mais il est sûr que tant que les hommes avaient le pouvoir monétaire, ils s'imposaient. Et le jour où les hommes ont perdu ce pouvoir exclusif, ça aussi, ça fait que la société change, donc, et que sa société s'est modifiée et que ça explique en partie ce qui s'est passé par la suite.
Donc, le gros bouleversement, est-ce que c'est dans les années 60?
C'est l'industrialisation et quand arrive la Révolution tranquille. Et il fallait, parce que là, tout avait changé. Tout a changé. Et là, il y a eu l'affranchissement, face à l'Église. Et les femmes ont vite, mais très vite, il y a eu le mouvement, le féminisme moderne aux États-Unis, à New York. Moi, je me souviens, dans le début des années 60, vers le milieu des années 60, je suis allée à New York et dans une manifestation à Wall Street. Et dans la rue, les femmes lançaient un midi, les femmes lançaient des soutiens-gorge à la tête des gens de Wall Street. Les hommes étaient traumatisés. Mais ils n'ont pas fini d'être traumatisés. Et ça, on va en parler dans le prochain volet.
Alors, manquez pas ça, deuxième émission de à haute voix, où on parlera du féminisme et de l'homme moderne d'aujourd'hui. Merci, ouais, Denise Bombardier.
Merci.
Contenu, Denise Bombardier. À l'animation, c'est moi-même, Vincent Dessureau. Montage et réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production de Cube Radio.